Bien, donc le thème ce soir, une seule chose est nécessaire, la parole, la Bible. Et bon, je pense que, j'espère que vous êtes tous convaincus que la Bible est nécessaire, indispensable à notre vie, à notre foi. Et j'aimerais commencer en vous posant deux questions. La première, c'est quelle conception vous avez de la parole de Dieu, de la Bible ? Et la deuxième, c'est quel est votre rapport avec la Bible ? Parce que malheureusement, même si on est chrétien, parfois on a une mauvaise conception de ce qu'est la parole de Dieu. Et du coup, notre rapport avec la Bible n'est pas tout à fait ce que Dieu voudrait. J'ai noté ici plusieurs choses que la Bible pourrait malheureusement représenter pour un chrétien. J'ai noté par exemple un livre superstitieux. Certains chrétiens pensent que parce qu'ils ont une Bible dans la voiture, eh bien alors ils n'auront pas d'accident. C'est pas qu'ils ont une Bible pour la donner ou pour la lire quand ils ont du temps, mais... J'ai la Bible dans ma voiture, tout va bien. Ou encore, certains chrétiens pensent que la Bible, c'est le livre du pasteur. Ah oui, c'est bien connu, le pasteur, il a toujours sa Bible pas loin de lui. Hein. Et puis, il la connaît. Si on a une question, bah, il n'y a qu'à lui demander. Lui connaît la réponse, puisqu'il a fait 3 ans d'institut biblique. Donc voilà, il a étudié la Bible, c'est son livre à lui. Pour d'autres chrétiens, c'est le livre de notre religion. Il y a les musulmans, eux, ils ont le Coran. Voilà, les bouddhistes ont des mantras ou je ne sais quoi. Les mormons, ils ont le livre de mormons. Les témoins de Jéhovah, ils ont la tour de garde. Et nous, on a la Bible. Voilà, c'est chacun son livre religieux. Pour d'autres, la Bible, c'est le livre du dimanche matin ou du mercredi soir. Alors, pour ceux qui ont l'étude biblique le mercredi soir ou jeudi soir ou d'autres soirs, c'est le livre qu'on ouvre, voilà, le dimanche matin en tout cas. Ça, c'est sûr. Pour d'autres encore, la Bible... C'est un peu plus subtil peut-être. C'est un livre qui raconte ce que Dieu a dit il y a longtemps. Voilà. C'est des histoires. Dieu, il a dit quelque chose il y a longtemps et c'est écrit. Mais ça s'arrête là et ça ne va pas plus loin. Alors avant de rentrer à proprement dit dans le message, j'aimerais laisser la parole de Dieu s'exprimer. J'ai noté plusieurs versets ici de ce que la Bible dit d'elle-même. Alors, il va y avoir beaucoup de références, donc je vous donne les références, mais prenez pas sinon vous allez jongler. Le premier, c'est Proverbe 30, verset 5, il est dit « Toute parole de Dieu est éprouvée ». Ensuite, dans Luc 11, 28, il est écrit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». 2 Timothée 2, 9 « La parole de Dieu n'est pas liée ». Hébreux 4, 12 « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 11:3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. 2 Pierre 3:5, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Luc 24:27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il est question du Seigneur Jésus. Jean 1, 14, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 2 Timothée 3, 16, 17, toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Josué 21, 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Ésaïe 55, 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et puis, psaume 33, verset 9, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Il n'y aurait pas assez de une heure même pour parler de tous ces versets, mais si on parle vraiment de la Bible comme étant la parole de Dieu, on doit avoir toutes ces choses à l'esprit. Ce n'est pas simplement un livre avec des écritures dedans. C'est la parole de Dieu. Dans ce livre, il y a la même puissance que quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Par sa parole, il a créé toute chose. C'est la même puissance. C'est la parole écrite de Dieu. Elle perdure jusqu'à aujourd'hui. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière est toujours. Dieu a parlé une fois, ça a été mis par écrit et c'est toujours vivant aujourd'hui. C'est pas justement des histoires que Dieu a racontées il y a longtemps. Oui, mais c'est pour nous aujourd'hui. C'est la parole vivante et efficace. Alors c'est curieux parce qu'en préparant le message, je m'attendais justement à prêcher sur Timothée, la piété est utile à tout, etc. Et j'ai été conduit dans un verset que Didier a cité tout à l'heure, qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre. Donc si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi, en 2 Pierre, on va lire à partir du verset 1, pour avoir la cohérence des versets. Et c'est les versets 3 et 4 qui vont nous intéresser. Donc 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 4. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc il est dit que la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment ? Par quels moyens ? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, de la connaissance de Jésus-Christ, de la connaissance de Dieu. Et où, mieux qu'ailleurs, trouvons-nous la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ? Dans la parole de Dieu. Si on n'avait pas la parole de Dieu, on ne saurait rien. On serait perdu. On serait orphelin même. Hein. On n'aurait pas de guide, on n'aurait pas de boussole. On dit souvent la Bible est la boussole de la vie, la boussole du chrétien. C'est justement dans cette parole que nous trouvons la connaissance du Seigneur Jésus. Donc dans cette parole, à travers cette parole, Dieu a pourvu à tout, absolument tout, pour notre vie chrétienne. Il y a tout. Si vous aspirez à une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne par l'Esprit, une vraie vie, une vie abondante, comme dit le Seigneur Jésus, vous trouvez tout dans la parole de Dieu. Tout dans la parole de Dieu. Alors, j'aimerais développer trois points, et ce sont finalement les trois ennemis dans notre vie chrétienne, qui nous empêche, grâce à la parole de Dieu, d'avancer. Qui empêche la parole de Dieu d'agir dans notre vie. C'est plutôt, dans ce sens-là, c'est plus facile. La première chose que nous voyons dans ce verset, il est dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Et le premier ennemi, ici, c'est l'ignorance. L'ignorance de la parole de Dieu. Ça paraît logique, mais comment la parole de Dieu toute puissante, qui est écrite ici, pourrait-elle agir dans ma vie si je ne la connais pas, si je ne la lis pas, si je ne l'ouvre pas, si je ne l'étudie pas? C'est impossible. Elle ne fera pas effet sur ma vie, c'est impossible. Comment peut-elle agir si on la laisse dans un coin de la bibliothèque? Alors bon, peut-être pas la bibliothèque, on est chrétien. Voilà. On va dire sur la table de nuit, c'est mieux. Elle est plus près déjà, on peut l'avoir à portée de main plus rapidement, mais si on la laisse sur la table de nuit et qu'on ne l'ouvre pas, comment peut-elle agir dans ma vie? Il est écrit en Éphésiens 4, 18, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. » À cause de l'ignorance qui est en eux. Cette ignorance que Paul dénonce chez les inconvertis, c'est dramatique de la retrouver chez nous. Parce que, si on veut être honnête, est-ce qu'on connaît vraiment la parole de Dieu? Elle est tellement vaste, elle est tellement grande. On connaît si peu et on connaît si mal la parole de Dieu. Et on est bloqué dans notre vie chrétienne parce qu'on est ignorant de beaucoup de choses. Alors que si on prenait la peine parfois d'ouvrir la Bible, de sonder l'Écriture, on trouverait la réponse à ce qu'on cherche, à ce dont notre âme a besoin. Alors vous direz peut-être, je lis ma Bible quand même presque tous les jours. Bon, j'ai mis presque, on vous dirait tous les jours. Je lis quand même ma Bible tous les jours. Voilà. C'est bien, c'est un bon début, mais est-ce que c'est suffisant de lire la Bible? Est-ce que simplement, voilà, je me lève le matin et vite je lis mon verset, parce que sinon j'ai pas lu mon verset de la journée, alors je lis mon verset et puis je pars travailler. C'est bon, j'ai lu ma Bible. Est-ce que c'est suffisant? Non. Il est écrit, le psalmiste dit, hein, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ou ailleurs, dans le psaume 1, donc ça c'était le psaume 119, dans le psaume 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Plus loin, il dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Qui la médite jour et nuit. Et il y a une grande différence entre lire la Bible et méditer la Bible. Chercher dans la Bible. Vouloir savoir qu'est-ce que Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois mieux faire? Comment je peux aller plus loin? C'est ce qu'on appelle mettre notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Mais ça va plus loin que simplement j'ai lu un verset. On dit aux jeunes, il faut lire un chapitre par jour parfois. C'est pas tout de le lire. C'est bien, c'est mieux que de pas la lire, c'est évident. Mais c'est plus que ça. C'est de chercher dedans la nourriture pour votre âme. On ne lit pas la Bible comme on lirait un roman ou l'horoscope, là, rapidement. Non, on sonde la parole de Dieu. On s'y attache. La parole de Dieu est vivante et elle agit, elle transforme. Si vous mettez votre vie à la lumière de la parole de Dieu, Dieu va transformer complètement votre vie. Il va la changer. Mais si vous êtes ignorant de la parole de Dieu, rien ne se passera. C'est peut-être, je ne sais pas, le pire ennemi de la parole de Dieu que l'ignorance de la parole de Dieu elle-même, de ne pas la connaître. Pour posséder cette ignorance, on sait que certains ont pour destinée la perdition éternelle. C'est ce qu'il est écrit, hein, en Romains 10, 14. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment invoqueront-ils? Pardon, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Parce que certaines personnes ne connaissent pas la parole de Dieu, elles vont en enfer. Et nous, nous avons le privilège d'avoir une Bible. Peut-être même plusieurs, je suppose, pour la plupart d'entre vous. Nous avons ce privilège immense d'avoir les paroles de la vie éternelle. Est-ce qu'on prend le temps? Est-ce qu'on prend la peine de sonder la parole pour savoir, pour connaître, pour s'approcher de Dieu, pour savoir, je ne sais pas moi, tout ce que Dieu est? Rien que ça, déjà, dans la parole de Dieu, c'est un programme pour toute une vie, mais qui est Dieu? On connaît Dieu, voilà, il est invisible, il est éternel, il est tout-puissant, il y a les caractéristiques, mais qui est-il vraiment? Quand on ouvre la parole de Dieu, quand on la lit, quand on cherche, on découvre la personne de Dieu. C'est là qu'on est brisé, c'est là qu'on est amené au pied de la croix, c'est là qu'on comprend toute la grandeur, la majesté, la splendeur de Dieu, la puissance de Dieu. Et on dit, oui, ce Dieu, c'est mon Dieu, et je l'adore, et je l'adore. Ne pas sonder la parole de Dieu, la parole de vie, c'est se perdre dans des chemins tortueux, dans des voies qui sont bien loin de la piété, hein, selon Dieu. Il est écrit en Proverbe 13:13, « Celui qui méprise la parole se perd. Celui qui méprise la parole se perd. » La vraie piété vient du cœur, de l'intérieur. Ce n'est pas des apparences, vous savez, il y avait le pharisien, qui était là, « Oh Dieu, je te loue que je ne suis pas comme ce pécheur, le dernier des hommes, etc. » Et il y avait ce publicain qui était là, « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » La piété que Dieu demande, elle vient du cœur, et c'est du cœur qu'on doit aimer la parole de Dieu. Ce n'est pas des choses extérieures. Il est écrit dans le prophète Osée, « Car Dieu aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Plus que les holocaustes. C'est une relation d'amour, de sainteté que cherche le Seigneur avec chacun d'entre nous. Mais si on n'ouvre pas la Bible, on n'aura pas cette relation. Parce qu'une relation sans communication, sans communion, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous ne savez pas ce que Dieu dit, comment prétendre être en relation avec lui? En écrivant cette partie, j'ai pensé à des choses que j'ai souvent entendues ou vécues. Quand quelqu'un se convertit, Donc, je viens d'accepter le Seigneur Jésus, il est tout feu, tout flamme. C'est beau à voir, c'est encourageant, il a du zèle, il aime la parole de Dieu. Je ne sais pas, vous, vous vous rappelez peut-être votre conversion, j'espère que vous vous rappelez. On a un amour, on a une soif pour la parole de Dieu, c'est incroyable. On la dévore, on la dévore. Et puis avec le temps, le nouveau converti zélé commence à être un peu moins zélé. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et puis on dit voilà, bon, c'est normal au début, t'es tout feu, tout flamme, et puis après ça se tasse, ça passe quoi, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi on se refroidit? Il y a ce proverbe, proverbe 26 hein, dans la Bible, qui dit « Faute de bois, le feu s'éteint. » Faute de bois, le feu s'éteint. Si on n'a plus l'amour pour la parole de Dieu, la soif de la parole de Dieu, alors notre zèle s'éteint. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Bien des hommes, on a des exemples dans la Bible. Hein. L'apôtre Paul, le zèle du nouveau converti, il ne l'a pas perdu avec le temps. Hein. C'est au contraire. Bon, ça s'est affermi, il y a de l'expérience, il y a de la sagesse, il y a d'autres choses. Mais le zèle est toujours là, il n'a pas changé. Que ce soit, bon, que ce soit l'apôtre Paul ou il y a bien d'autres exemples hein, d'hommes qu'on connaît. Et donc, le Seigneur nous exhorte à combattre déjà l'ignorance de la parole de Dieu dans notre vie. On peut toujours en savoir plus sur la parole. On doit toujours avoir soif et envie de sonder les Écritures pour aller plus loin. C'est valable dans notre vie personnelle. C'est valable aussi, le combat est le même dans notre foyer. Le combat est le même auprès de nos enfants. Le combat est le même dans nos églises. Combattre l'ignorance de la parole de Dieu. Le deuxième ennemi que j'ai noté ici, donc dans 2 Pierre 1, je relis ce verset, il est dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Qui dit promesse de la part de Dieu dit foi de la part de l'homme. Il nous faut la foi pour accepter, pour saisir et pour vivre les promesses que Dieu nous donne. Ces promesses sont écrites dans la parole de Dieu. Le deuxième ennemi que j'ai noté, c'est l'incrédulité. De même que l'ignorance paralyse notre vie de piété, hein, notre incrédulité empêche Dieu d'agir dans notre vie. Nous nous privons par notre incrédulité des promesses que Dieu donne et de consolation, d'apaisement, de bienfaits, de solutions dans l'épreuve, de persévérance dans l'épreuve, de tant de choses. On se prive aussi de bien des occasions de voir Dieu agir dans notre vie. Sonder les Écritures et connaître la parole de Dieu, c'est une chose. Mais si on n'a pas la foi dans cette parole toute puissante, ça ne sert à rien. C'est comme si j'apprends par cœur une œuvre de Shakespeare ou je ne sais quel auteur. Pas de différence. Non, dans la parole de Dieu, on a la foi. Parce que c'est Dieu lui-même qui a parlé. Et c'est la parole toute puissante de Dieu. La même qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la même parole avec autant de puissance contenue dedans. Sans la foi que ce que je lis est la parole de Dieu, les mots même de Dieu, avec la puissance même de Dieu, si je ne crois pas que c'est la même puissance, que dedans je retrouve la même sainteté que celle qui était dans la parole faite chair, Christ, ou si je ne crois pas que cette Bible est l'épée à double tranchant qui va pénétrer jusqu'au fond de moi pour me sonder, pour me changer, pour me transformer, pour faire le tri dans ma vie, sans la foi dans ces choses, quel impact aura la Bible dans ma vie ? Rien du tout. Et je ne suis pas en train de parler de ceux qui remettent en question ouvertement la parole de Dieu, hein, en disant « oui, la création, ce n'est pas vraiment 6 jours, etc. etc. » Non, je parle de nous, de notre relation personnelle avec la Bible. Jusqu'à quel point nous croyons la Bible ? Jusqu'à quel point nous croyons que ce que Dieu a dit là, c'est la vérité ? Si je le crois, je le vis. Ce n'est pas simplement un beau message prêché du haut d'un pupitre, là. Non ! C'est une vie entière. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il est écrit, ainsi en est-il de ma parole, je l'ai cité tout à l'heure, hein, qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce qu'on le croit vraiment? Vous savez, j'ai été choqué plusieurs fois dans ma vie chrétienne par certaines paroles que j'ai entendues de la part de chrétiens où il y a de l'incrédulité. On dit Dieu est tout puissant et on rajoute mais quelque chose derrière. On a besoin de temps ou de ça, je ne sais pas, un nouveau local ou autre, mais c'est trop cher. Mais c'est pas possible, mais dans le monde dans lequel on vit, mais est-ce que Dieu est vraiment le Dieu créateur? Est-ce qu'il est le Dieu tout-puissant? Il l'est. Dieu dit demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. En Matthieu 13, 58, on a une dure remarque, il est écrit, et le Seigneur ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que Dieu veut pour votre vie, du plan qu'il a pour chacun d'entre vous? Je pense qu'on ne peut jamais avoir l'idée complète. Ça nous dépasse de beaucoup et ça va bien bien plus loin que ce qu'on peut imaginer. Mais on ne pourra jamais rentrer dans ce plan si on n'a pas la foi et une foi absolue dans la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, je le crois, je le vis. C'est la réalité. C'est la vérité, c'est la puissance de Dieu. On a de nombreux exemples hein, d'hommes et de femmes qui ont eu une vie de piété. On connaît des grands noms, on ne connaît pas plein de petits noms qui sont passés à la trappe hein, avec le temps. On a retenu les Hudson Taylor, les George Muller, les John Wesley. On a dans Hébreux 11, on a la liste des héros de la foi. Ils avaient une chose en commun. Ce que Dieu avait dit, ils le croyaient sur parole et ils le mettaient en pratique dans leur vie. Ils ne cherchaient pas à discuter avec la parole de Dieu. Dieu disait une chose, je le vis, je le fais, tout de suite, instantanément. Il est dit d'Abraham, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains chapitre 4, 19 à 21. Il a cru dans ce que Dieu avait dit. Et on doit combattre dans notre vie l'incrédulité qui s'installe si facilement. Le troisième ennemi que j'ai noté ici, donc je relis le verset de 2 Pierre, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et j'ai souligné ici la corruption qui existe dans le monde. Parce que le Seigneur Jésus a dit hein, qu'on ne quitterait pas le monde, en tout cas pas tant qu'il n'est pas revenu, mais qu'on était quand même dans le monde, quoique n'appartenant pas au monde. Et donc, obligatoirement, on subit une influence du monde. Que ce soit à travers la télé, que ce soit à travers les pubs, que ce soit à travers Internet et tout ce que vous voulez, la société, l'éducation, le parcours scolaire, on subit une influence du monde. C'est obligatoire. Et c'est un grand ennemi de la parole de Dieu que la contamination du monde et de sa pensée dans nos vies et dans nos églises, dans nos foyers aussi. J'ai noté ici trois choses. On a la première chose que j'ai notée, c'est les préjugés de notre époque. On vit dans une certaine société qui a des préjugés sur beaucoup de choses. Et ça nous influence. Alors, quelqu'un qui du monde, avec ses préjugés qu'il a reçus, qui lit la Bible, il dit « Ah, la Bible, c'est un livre qui est misogyne. C'est un livre qui est esclavagiste. C'est un livre qui est sanglant. C'est un livre qui est intolérant, avec l'homosexualité, par exemple. C'est un livre qui cherche à faire peur avec l'enfer éternel. Et on peut multiplier les exemples, hein, je pense, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils lisent la Bible avec des préjugés d'une certaine époque, ce qu'on leur a inculqué, ce qu'on leur a appris. Mais c'est à tel point que même certains chrétiens sont influencés par ces choses-là. Et il y a des parties de la Bible qu'ils ne lisent plus. On les lit plus rapidement. Hein. C'est les versets qui parlent de l'homosexualité, avec tous les débats qu'il y a eu, tout ça. On passe un petit peu plus vite dessus, parce que voilà, quand même, on ne sait pas trop. Les passages sanglants, notamment, j'ai noté ici Josué 6, 17, où Dieu demande de dévouer par interdit les villes de Canaan, donc de tuer hein, femmes, enfants, vieillards, tout ce qu'il y a, passer par le fil de l'épée. Et on tourne plus vite la page, voilà, on ne cherche pas forcément, on tourne. Alors que c'est des passages merveilleux qui expliquent à quel point Dieu est juste, droit, il est saint. Ses peuples faisaient passer notamment leur nouveau-né par le feu, hein, vivant, et ce genre de cruauté, d'abomination. Dieu a patienté pendant plusieurs centaines d'années pour que ses peuples aient une occasion. Certains, il y a Rahab hein, qui s'est tourné vers Dieu. Dieu laisse toujours la porte ouverte. Mais il doit juger le péché. Et ces passages nous montrent aussi en même temps à quel point nous, qui ne sommes pas si différents de ces personnes-là, nous avons la grâce du Seigneur. Nous avons été sauvés, nous avons été rachetés. Il y a beaucoup de choses à en tirer. Ou alors, certains chrétiens passent vite sur l'enfer. Alors, j'ai appris dernièrement, même les catholiques, pour l'enfer, voilà, c'est de moins en moins... Plus ça va, moins on croit à l'enfer. Hein, ça dérange. Voilà, c'est pas bien de parler de l'enfer. Même, voilà, parfois, en tant que chrétien, hop, passage sur l'enfer, Apocalypse 20, hein, ils seront tourmentés au siècle des siècles. On passe un peu plus vite quand même. Non, c'est la justice parfaite de Dieu. Alors, tu as parlé tout à l'heure, Didier, des... la nourriture, tout ça. Et en notant, en étudiant le passage et en réfléchissant, je pensais au sacrifice d'animaux dans l'Ancien Testament. Alors aujourd'hui, on est dans un monde où les animaux sont de plus en plus idolâtrés. Voilà, c'est donc végétarien. Bon, ça dépend comment on est végétarien. Mais il y en a, c'est vraiment absolu. Les pauvres animaux, etc. Alors, je ne sais pas comment ces personnes-là lisent le Lévitique, où on voit des sacrifices d'animaux partout. C'est assez difficile. On passe... Non, il y a un enseignement, Dieu sait pourquoi il a écrit ces choses-là. Il fallait que le sang coule pour couvrir le péché. Et nous avons le sacrifice parfait qui est venu après, hein, Christ, l'agneau de Dieu qui ôte, lui, qui couvre pas, qui ôte le péché du monde. Mais nous avons des préjugés, il y a des préjugés, et il faut faire attention dans notre vie chrétienne à ne pas nous laisser influencer par tous ces préjugés qui sont autour. Que dit la parole de Dieu ? La parole de Dieu dit une chose. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que les gens pensent, qu'on soit intolérant, fanatique, sectaire, ça importe peu. Nous, on reste droit et fidèle à la parole de Dieu. Après les préjugés de notre époque, j'ai noté aussi, dans notre époque, un mépris pour la parole de Dieu. Ça, c'est flagrant, on le voit partout. C'est la même technique que le vieux serpent hein, au jardin d'Éden. Hein. Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que Dieu vraiment a ouvert la mer Rouge, vous croyez ? C'est une belle histoire pour les enfants, mais est-ce que vraiment la mer Rouge s'est ouverte en deux, et puis ils sont passés à pied sec, et puis quand même, c'est un peu gros, quoi. Ou alors les 10 plaies avant la mer Rouge, ou comment Dieu en 6 jours, en 6 jours il a créé, et il m'a dit qu'il s'est reposé. Mais que dit la parole de Dieu ? La Bible aujourd'hui est sans cesse attaquée, moquée, critiquée, parodiée, caricaturée, déformée, on pourrait mettre plein d'autres termes. On pense aussi, beaucoup pensent que c'est un vieux livre, que c'est démodé. Voilà, c'est parler de la Bible, certains vous disent, hein, comment vous en êtes encore là à la Bible ? Attendez, mais on a la science aujourd'hui, la Bible c'est un bouquin pour nos grands-parents, c'est pas pour nous. Nous on est jeunes quand même, avec l'informatique, toutes les technologies, tout ce qu'on voit aujourd'hui, les satellites. Vous avez encore la Bible ? Attendez, mais vous êtes dépassés. Et je crains que même certains chrétiens... On arrive à avoir des doutes ou à se dire oui, effectivement, peut-être que c'est écrit ça, mais peut-être que ça ne veut pas vraiment dire ça ou que Dieu n'a pas vraiment fait ça. Peut-être qu'on peut l'expliquer d'une façon scientifique et rationnelle. Non, quand Dieu fait un miracle, il fait un miracle. Hein. Quand le Seigneur Jésus a marché sur l'eau et que Pierre est allé marcher à sa rencontre sur l'eau, Vous ne pouvez pas trouver de raison rationnelle ou scientifique à ça. C'est Dieu a fait un miracle, point. C'est réglé, c'est tout. N'est-il pas écrit dans la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, enseigner, etc. On l'a lu tout à l'heure. Et est-ce que pour nous, la Bible, c'est vraiment un livre précieux? Est-ce que pour nous, c'est un livre de vie? Un livre qu'on aime de tout notre cœur? Ou est-ce que c'est mon livre de chrétien? Voilà, je suis chrétien, donc j'ai la Bible. Un livre de religion. On y revient. Est-ce que vous essayez toutes les choses et puis si ça ne marche pas, je vais quand même essayer d'ouvrir la Bible pour savoir s'il n'y a pas un bon conseil dedans. Peut-être, on ne sait jamais. Non, on prend la Bible en premier. On est chrétien. C'est la parole de Dieu. C'est si Dieu a pris la peine de parler et d'écrire ça dans la Bible et de la faire parvenir jusqu'à nous au prix de vie humaine, parce que des hommes sont morts pour protéger la Bible. Si Dieu a pris toute cette peine, croyez pas que c'est qu'il a quelque chose d'important à nous dire. Et pas simplement, oui, il y a le salut. Mais une fois qu'on est sauvé, croyez pas que Dieu a encore des choses bien grandes et bien importantes à nous dire si on n'ouvre pas la Bible. Si on pense comme le monde que c'est un livre avec des belles histoires qui sont racontées dedans, où en sommes-nous? Et puis la dernière chose que j'ai notée pour la contamination du monde et de sa pensée, c'est que, et ça on le voit aussi partout, on vit dans un monde qui est centré sur soi, sur sa consommation personnelle, sur son plaisir personnel. Il faut que je consomme, il faut que j'ai du plaisir, il faut que je m'amuse, il faut que j'ai des loisirs, il faut que j'ai du repos, il faut que j'occupe mon temps, alors du repos, sous-entendu des vacances aux Caraïbes ou des vacances n'importe où, hein, parce que c'est toujours... Je sais pas, à Paris, on a les affiches partout. C'est la folie. On a l'impression que il y a un mouvement vers les Caraïbes. Et puis, une semaine après, c'est pour le Maroc. Une semaine après, c'est pour la Turquie. Une semaine après, c'est pour je ne sais où. Mais voilà, toutes les semaines, il y a une nouvelle pub qui sort. La Hongrie, pour le prix d'un resto hongrois ou des choses comme ça. Il faut que les gens aient du bonheur à consommer tout de suite quelque chose. Il faut qu'ils consomment, quoi. Il faut qu'ils aient, il faut qu'ils possèdent, il faut qu'ils satisfassent leur chair. Ouais, c'est ça. J'ai noté 1 Jean 2, 16 qui dit, c'est écrit dans la parole de Dieu, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » C'est un peu, vous savez, carpe diem, la philosophie. Hein. Je profite de l'instant présent au maximum, je vis ma vie et je ne m'occupe pas des autres. Mais il faut qu'on fasse attention à ne pas se faire influencer par cette philosophie, ce mode de pensée où je dois consommer, où je suis matérialiste, où il me faut posséder tout de suite. Alors c'est vrai qu'avec les pubs qui sont matraquées, c'est un vrai travail, c'est un vrai combat. Mais on n'a pas besoin de toutes ces choses. On a la parole de Dieu, on a la joie, on a le Saint-Esprit qui vit en nous. Qu'est-ce qu'on a à faire de toutes ces choses? De toute façon, un jour, la terre va être détruite, elle va disparaître. Tout ça va être complètement anéanti. Quand on meurt, on n'emporte rien. Ouais, on a besoin du nécessaire, on a besoin de certaines choses. Et puis Dieu, parfois, bénit, nous fait des cadeaux. Un peu de bonheur en plus, un peu de choses, mais on a l'essentiel de ce dont on a besoin. Et le danger dans cette philosophie, alors, je sais pas, peut-être je suis influencé par la vie parisienne, où on est métro, boulot, dodo, à fond, on n'arrête pas, on court partout, tout le monde court. Où est le temps pour penser, quoi? On n'a plus de temps pour penser. Pour s'asseoir, dire stop, je m'assois, je réfléchis sur ma vie. C'est quoi ma vie? Quel est le but de ma vie? Quel est le but de l'existence? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Quels sont mes centres d'intérêt? Je sais pas, moi, quel genre de personne je suis? On pense plus, quoi. Et je pense que, d'ailleurs, le monde fait exprès d'infiltrer toutes ces choses-là. Hein. On est sous perfusion continue, qu'on n'ait pas le temps, surtout, de réfléchir, de voir qu'on est en train de se faire tondre par un système et d'aller tout droit en enfer, d'ailleurs. On n'a plus le temps de réfléchir. Mais nous, chrétiens, on doit prendre le temps de réfléchir. On doit prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu et de chercher la face du Seigneur. Parce que si on ne le fait pas, si j'ai juste lu un petit verset comme ça, et puis pareil, je pars toute la journée, où est la vie chrétienne? Où est la vie? Est-ce que vous croyez que les inconvertis qui voient ça, ils ont envie de devenir chrétiens? Mais ils n'ont pas envie. C'est t'as quoi de plus que moi? Simplement, tu vas à l'église le dimanche matin, et puis tu parles un peu de la Bible, quoi, des fois, et puis tu connais quelques versets, mais à part ça, c'est pareil que moi. Alors que c'est tellement plus que ça. Il y a tellement plus grand, il y a tellement plus beau. J'ai voulu quand même citer le verset qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu », Matthieu 4, 4. Le monde voudrait nous nourrir avec plein de choses qui ne sont pas nourrissantes pour notre âme, qui ne rassasient pas. Où en est-on ? Où en est-on avec la parole de Dieu ? Quel est mon rapport avec la parole de Dieu ? Est-ce que vraiment je l'aime ? Est-ce que je m'y attache ? Est-ce que je fais d'elle mes délices ? Comme dit la Bible, hein ? Est-ce que je fais d'elle mes délices ? Je m'en régale. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Ésaïe 34, 16. Ce livre que nous avons entre les mains, ce n'est pas un simple livre. C'est la parole de Dieu. Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, celui sans lequel nous n'existerions pas. Il a parlé, il a dit, il a révélé, il a dévoilé des choses. Il veut nous amener toujours plus loin. Il a pour nous en réserve des promesses que nous ne soupçonnons même pas, tellement elles sont merveilleuses pour nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu ? Est-ce qu'on la lit par habitude ? Est-ce qu'on la lit seulement, régulièrement ? Est-ce qu'elle est autorité dans notre vie ? Est-ce qu'elle est le guide de mon foyer, de ma vie, de nos églises ? Est-ce que je rends à la parole de Dieu l'honneur qui lui est dû ? C'est ça la question ce soir. Quand vous lisez la parole de Dieu avec un cœur bien disposé, mais elle crée en nous un cœur pur, elle renouvelle en nous un esprit bien disposé. Et là, je cite des versets, hein, sans donner les références, mais elle éclaire aussi notre vie dans les moindres détails. Elle crée en nous le vouloir et le faire. Elle nous montre aussi quelle est la volonté de Dieu qui est agréable et parfaite. Sur cette terre, elle est le meilleur allié qu'on ait. Elle est le meilleur ami. La meilleure amie, la Bible. La parole de Dieu. Elle est fidèle en tout temps, elle ne change pas d'un iota, elle est toujours présente, elle est toujours là, toujours. Le Seigneur Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, par son esprit. Mais il y a aussi la parole de Dieu qui est là, qui a été inspirée par l'esprit, justement. Vous savez, il est dit, c'est l'esprit de consolation. Le consolateur va venir, de bientôt à la Pentecôte. Le consolateur va venir, il a consolé les cœurs, il a rempli les premiers disciples, de sa plénitude, voilà, ils sont allés prêcher l'évangile, mais il a aussi rédigé le Nouveau Testament. Il avait inspiré l'Ancien Testament. C'est des paroles de consolation, c'est des paroles de vie, c'est des paroles merveilleuses. On pourrait perdre tout sur cette terre. Si on avait la parole de Dieu, on aurait ce qui est nécessaire à notre âme et indispensable. On peut tout perdre, mais pas la parole de Dieu. Et je vous encourage, et j'ai toujours une pensée pour les jeunes, mais c'est valable pour les moins jeunes aussi, mais à ne pas gâcher votre vie. N'allez pas voir ailleurs. Il n'y a rien que le monde vous proposera qui pourra vous satisfaire. Alors que vous avez tout dans la parole de Dieu. Qu'elle soit toujours auprès de vous, comme un guide fidèle, une alliée. Mais il faut l'aimer pour ça, et il faut croire dans ce qu'elle dit. Elle a une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. Et pourtant, par notre ignorance, par l'influence du monde, par notre incrédulité, on limite tellement la puissance de la parole de Dieu. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Alors si vous avez soif d'une vraie vie de piété, de vie éternelle, il n'y a pas de formule magique. Désolé. Il n'y a pas de secret non plus. Aucun. Rendez à la Bible la place qu'elle doit occuper dans votre vie, dans vos actions, dans vos pensées. Sondez les Écritures pour y découvrir mieux, toujours plus, notre Dieu, notre Sauveur, notre Roi aussi. Imprégnez-vous de la pensée biblique au lieu de la pensée du monde qui passe. Et croyez Dieu sur parole. Ce qu'il a dit est vrai et ça restera vrai pour toujours. Et ça peut transformer votre vie. Ça la transformera si vous la croyez, si vous le croyez. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 48, on va prier.